Rituel saison 4, la suite.
C'est très compliqué d'écrire un scénario, c'est comme si on se mettait à la place de Dieu, quoi. Je connais tous ces gens, comment ils réagissent, quand est-ce qu'ils mentent, quand est-ce qu'ils sont capables de dire, qu'est-ce qu'ils ont dans les poches, est-ce qu'ils ont mal au ventre quand ils disent ça, parce qu'ils ont... Enfin voilà, il y a vraiment... On est hantés en permanence, et évidemment, c'est un peu eux, c'est un peu nous tout le temps, et en même temps, c'est quand même pas nous, donc ils doivent avoir d'autres logiques, d'autres morales. C'est passionnant, j'ai adoré ça.
À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre ou dans un cahier, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles? Comment écrivent-ils? Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinévox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles reviennent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Je suis persuadée qu'un film en ouvre un autre. Formée à l'INSAS, Eve Duchemin tombe presque par hasard dans le documentaire, réalisant une poignée de portraits intenses et percutants, dont le dernier, En bataille, portrait d'une directrice de prison, remporte le Magritte du meilleur documentaire. Il lui fait aussi mettre un pied en prison, où quelques rencontres fugaces la hantent tellement qu'elle donne corps à son premier long-métrage de fiction, Temps mort, sorti en avril 2023. Avec Eve Duchemin, on a parlé de la façon dont les projets s'enchaînent, dont l'exigence documentaire nourrit l'écriture de fiction, dont les bruits du monde peuvent l'inspirer, ou encore la façon dont ce personnage sont des sortes de colocataires.
Bonjour Eve.
Bonjour.
Alors j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment ?
Alors non, j'écris pas puisque je viens de terminer un film que je montre un peu partout en Belgique et en France. Mais ce qui est assez joli, c'est que comme c'est la première fois que j'écrivais une fiction, que je reçois des retours de spectateurs, ça m'autorise à repenser de manière... J'écris dans ma tête, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vois un plan d'une possible écriture suivante qui va venir, en tout cas à l'endroit de la fiction. Donc voilà, donc j'écris dans ma tête en ce moment. Je remplis mes poches et je sais comment j'ai envie d'agencer les choses.
Comment on fait pour enchaîner les projets? Est-ce qu'il y a des projets qui peuvent se chevaucher l'un l'autre? Ou comment est-ce qu'on fait pour avoir son esprit éventuellement sur plusieurs écritures à la fois? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est impossible?
J'en suis incapable. J'aurais adoré savoir faire ça. On m'a beaucoup prévenu que quand on faisait une fiction, c'était important d'avoir un autre projet pour pas subir de plein fouet la chute, enfin la fin de cette espèce d'ébullition. Et c'est vrai que je ne sais pas le faire, en fait. Il y a vraiment une vie, puis l'autre. Et puis surtout, ce qui se vérifie à chaque fois, c'est que un film en amène un autre. Et que tant que j'ai pas montré le film que j'ai fait, que j'ai pas vraiment saisi ce qu'il y a dedans et l'endroit où c'est partageable, j'arrive pas à... C'est comme si j'ouvrais un peu les curseurs de moi-même à être ouverte pour qu'une autre histoire arrive à émerger, que ce soit du réel dans le documentaire ou de la fiction, d'ailleurs.
Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit ?
Alors, je m'en souvenais pas, mais c'est vrai que j'ai dû aider ma mère à déménager. Et en ouvrant ses cartons, je suis tombée sur des petites choses que j'écrivais. Dans les années 80, il y a eu un roman, je ne sais plus comment s'appelait cette fille. Et le personnage principal écrivait un journal intime. Et donc, c'est pas vraiment un journal intime, ce que j'écrivais juste des lettres. Aujourd'hui, c'était A, aujourd'hui, c'était Z, aujourd'hui, avec quelques phrases. Et puis, des petites anecdotes de choses que j'arrivais pas bien à comprendre, de ce qui se passait dans le collège, voilà. Et c'était assez amusant parce que c'était écrit en hiéroglyphes. Voilà, c'est des choses que j'avais complètement oubliées. J'ai écrit beaucoup, mais j'ai écrit à l'attention de... C'est-à-dire, j'écrivais beaucoup de lettres d'amour. Et des espèces de poésies qui ne sortiront jamais de ce carton, mais voilà. Et c'est vrai que j'avais oublié que fin de l'enfance, début de l'adolescence, avec mon stylo plume, j'écrivais comme une dingue des mots que je trouvais beaux à assembler. Et c'était très étonnant de retrouver ça après avoir écrit pendant 5 ans un scénario où en fait on retrouve le plaisir des mots. Et j'avais oublié que pendant toute une période, ça m'avait hanté. Des choses qui n'ont pas été lues, ou alors les lettres, les petits messages secrets cachés dans les cartables et dans les poches. Mais c'est vrai que voilà, y a quelque chose qui remontait en moi de l'enfance et que j'avais complètement oublié. C'est comme si au début de l'âge adulte, je m'autorisais pas à... Comme si écrire des dossiers documentaires, bien sûr, il y a le rythme des mots parce qu'il faut le plaisir de la lecture et emmener les gens à imaginer le film possible de tout ce que je rêve de filmer avec les gens que j'ai rencontrés. Mais là, c'était vraiment trouver des phrases sans verbe. Je sais pas, je m'autorisais, il y avait quelque chose de graphique. En fait, j'étais gauchère. J'avais beaucoup de problèmes à l'école, justement, avec cette écriture. Et c'est un mélange. Puis j'ai un peu tagué aussi. Enfin voilà. Et en fait, tout ça, c'est un mélange graphique et visuel. C'était chouette de retrouver ce carton pour ça. De se dire qu'en fait, tout est en germe depuis le début, il faut juste apprendre à grandir et s'autoriser, enfin retrouver la liberté de nos enfants, surtout.
Qu'est-ce qui s'est passé entre cette première rencontre avec le plaisir des mots et puis les retrouvailles et comment le documentaire s'est intercalé entre ces deux moments?
Eh ben, y a un truc qui s'appelle l'adolescence, où je crois que je suis devenue un être très timide et très inhibée, très silencieuse, très chahuteuse, mais pas du tout très gênée d'avoir l'impression d'avoir rien à dire de spécial et d'avoir aucune pensée à déployer. Il y a quelque chose comme ça qui m'a bloquée longtemps. Et notamment, je me souviens, j'ai vécu pendant un moment avec un rappeur qui était très doué en freestyle, qui avait une capacité à agencer sa pensée et en plus en rime, en rythme, en live. Et à l'époque, je chantais un petit peu, et, enfin, je chantais du jazz en anglais, et il me disait, mais écris en français. Et c'est vrai que j'étais tétanisée de ça, de devoir écrire à mon endroit, de mon point de vue sur le monde. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance, des hasards de la vie qui m'ont amenée à l'INSAS et à apprendre à utiliser une caméra. Et c'est-à-dire que c'est pas que je me cachais derrière une caméra, mais j'ai beaucoup filmé les autres pour récolter leur prise de parole, tout en conservant les questions que je leur posais. Mais quelque part, je me rendais compte au fur et à mesure qu'en fait, ils parlaient pour moi, parce que évidemment, on filme des gens parler, mais il y a une phase de montage. C'est pas qu'on réécrit ce qu'ils disent, mais on agence en fonction de ce que nous, on a envie de défendre. Et que petit à petit, ça m'a donné une forme de courage, parce que quand on fait des films, il faut les défendre dans des festivals, devant des gens. Et du coup, quelque part, portée par eux, j'étais obligée de défendre ce que je trouver de beau en eux à mettre en avant. Et c'est comme si ça nous réconcilie avec une forme de langage et de s'approprier une pensée qui se développe. C'est quelque chose comme ça. Je pense qu'il fallait sortir d'un espèce de nuage où on sait pas trop qui on est, d'où on part, qu'est-ce qui nous définit. Enfin, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter de dire je. J'ai même eu beaucoup de temps avant de dire que je faisais des films. Je disais que j'étais une caméra woman et que je faisais des images. Voilà, je pense que chacun sa trajectoire, mais moi, ouais, ça m'a pris du temps avant d'accepter que j'étais à un endroit du monde et que je me positionnais pour regarder les autres, que ça, c'était une histoire.
Ça s'est passé quand et comment ce déclic, ce moment où on se dit, en fait, je suis autrice, je suis cinéaste et je dis je.
Je sais pas exactement, en fait, il y a eu. Enfin, j'ai fait un film de fin d'études un peu par hasard à l'INSAS qui s'appelle Guilin et Liliane, couple avec pigeon. En fait, je filmais juste un vieux couple de Wallonie qui avait la gentillesse et la tendresse de m'accueillir chez eux quand j'avais des examens. Enfin, je passais des week-ends à la campagne chez eux, ils n'avaient pas d'enfants. Et je les ai filmés par amour, je chantais que ce vieux était en train de mourir. Enfin, tout ça, ça s'est fait complètement par hasard et c'est évident que se retrouver dans des festivals comme l'USAS où ça pense le documentaire et qu'on doit parler devant des gens, c'est complètement tétanisant. Et je pense que c'est à force, parce qu'après j'ai continué, en fait on m'a demandé de parler de mon cinéma, ce que je trouvais complètement dingue comme concept, puisque c'était tout ça c'était vraiment du hasard. Et je crois que film après film, en fait au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que bah, qu'il y a des liens entre les films et que du coup ça forge le ciment, enfin, accepter que dans tout ça, tout ce qui résonne, ça fait partie de mon identité et que du coup, je peux m'appuyer là-dessus pour dire je. Donc, c'est vraiment de film en film. Je pense que ça a pris une bonne dizaine d'années. Si on peut dire que je fais des films depuis plus ou moins 20 ans, je pense que ça a pris au moins 10 ans. Mais voilà, c'est, en même temps, ça m'a pas empêché de faire des films tout le temps et de partir en bataille pour continuer à oser penser que j'avais des choses à montrer aux autres, quoi.
On va se pencher un petit peu sur la logistique de l'écriture. Est-ce que vous écrivez souvent et est-ce que vous avez des moments de préférence pour écrire?
Alors ça dépend parce que donc moi j'ai dû écrire beaucoup de promesses documentaires, c'est-à-dire j'ai dû écrire des dossiers où j'ai fait des rencontres et je suis persuadée qu'il y a un film magnifique à faire avec cette personne, enfin en tout cas à deux, elle et moi. Et du coup c'est une écriture assez singulière parce que c'est un peu une espèce d'autopsie d'une obsession, c'est-à-dire pourquoi cette personne a quelque chose à nous dire, pourquoi c'est moi qui dois filmer cette personne, quelque chose à nous dire, et l'intuition de ce vers quoi ça va aller. Et ça, c'est plus ou moins l'écriture d'un dossier documentaire. Alors que, ben, il y a 6 ans, en sortant d'une expérience carcérale, j'étais hantée par des anecdotes de personnages et j'ai commencé à les écrire et c'est encore une autre manière de se mettre à table et de travailler. Et le troisième élément qui est quand même très important, c'est que, entre-temps, j'ai eu 2 enfants qui sont petits encore. Et donc du coup, l'écriture, c'est devenu une bataille, c'est-à-dire je mets mes enfants à l'école, je vais dans un bar et je travaille dans un bar pas loin de l'école pour gagner le plus de temps possible. Et ce temps d'écriture s'arrête au moment où je dois aller les chercher. Mais ça me force à une espèce de rigueur parce que ça... Donc, voilà, faire des films, c'est d'abord les défendre et trouver des financements. Donc malheureusement, il faut toujours passer par cette phase d'écrit, de rencontres, de commissions, de défense. Et quelque part, c'est des temps nécessaires où on doit faire le clair avec soi-même, avec ses idées, avec ce qu'on défend. Donc voilà. Donc du coup, pour maintenant, je pense qu'avant, je travaillais beaucoup la nuit et maintenant, je travaille beaucoup le jour, quoi. Tout en sachant que voilà, le matin, on a l'esprit très clair et l'après-midi, c'est fait pour divaguer, errer sur Internet et enrichir d'autres choses, ce qu'on est en train d'écrire. De l'approfondir, mais moins de manière staccanoviste. On trouve au hasard des gens qu'on entend, une chair qu'on va rajouter à ce qu'on est en train d'écrire, quoi.
L'endroit où vous écrivez, c'est ce bar à côté de l'école. Comment est-ce que vous le décririez ? C'est ça, votre bureau, votre lieu d'écriture ?
Oui, en fait, depuis que j'habite avec des enfants, quand je reste chez moi, je fais des lessives. Enfin, je suis vraiment une piètre femme d'intérieur, donc j'essaye toujours de rattraper, voilà. Alors que dès que je suis dehors, je suis que moi. Et donc, m'installer dans un bar, bah, après, il y a vraiment tout l'art de trouver le bar idéal pour pouvoir écrire. Il faut qu'il y ait du monde, mais en même temps, il faut pas qu'il y ait trop de gens que je connaisse, parce que sinon, ce temps précieux, parce que c'est vraiment... Je ne savais pas que un jour, le temps de recherche serait conditionné par des horaires. Donc du coup, j'essaye vraiment d'être dans un entre-deux. Il faut qu'il y ait de la musique, mais pas trop forte, pour pas que je me mette à écouter la musique, mais à écouter ma petite musique à moi. C'est toute une stratégie, mais j'adore. Et puis j'aime ce rendez-vous quotidien dans des bars qui me connaissent bien. J'aime bien. Et puis c'est des bureaux volants, quoi. On a de la chance maintenant d'avoir nos ordinateurs et de se déplacer. Moi, j'ai besoin d'être ailleurs et j'adore être entourée de gens que je connais pas, dont je... surprend des bribes de conversation. Par exemple, là, comme j'ai dû écrire des scènes avec des dialogues de gens, bah, c'est assez beau d'être avec du vivant autour, d'être tout le temps en train d'entendre l'agencement des mots dans un dialogue réel, alors que nous, on est en train de le passer par la phase de l'écriture. Et moi, ça m'aide beaucoup à essayer de retourner les phrases, de les rendre plus simples, de me rendre compte en écoutant les autres que les gens ne répondent pas aux questions. Vu qu'ils connaissent la personne avec qui ils parlent, ils vont répondre comme s'il y avait eu 3 questions plus tard. Enfin, quelque chose de l'ordre de l'intime, voilà. J'ai adoré écrire des dialogues entourés de plein de gens et en même temps voilà, d'être capable d'être dans ma bulle, de relire ces scènes, de rire à certaines répliques ou à une situation. Le café, c'est tout un art. De toute façon, moi, j'ai grandi dans un café-resto, donc j'ai toujours... je peux pas être dans du silence et je peux pas non plus écouter de la musique que j'aime vraiment parce que sinon, je me mets à l'écouter. Donc du coup, le café, c'est pas moi qui choisis la playlist et je trouve ça... j'adore.
Vous pouvez me parler de vos outils d'écriture. Vous avez parlé de l'ordinateur, mais est-ce qu'il y a d'autres outils qui vous accompagnent ?
Ben oui, comme je racontais cette histoire d'art graphique, là, de gauchère, j'ai toujours des cahiers, j'écoute beaucoup la radio et j'essaie de rattraper, on va dire, une scolarité un peu molle, où j'étais un peu feignante et j'ai pas assez lu dans ma vie. Et en fait, j'ai l'impression que de film en film, je n'essaye que de rattraper mes connaissances pas assez précises durant l'adolescence. Et donc, j'ai pas assez lu. Et c'est vrai que quand j'entends un auteur qui parle, qui tout d'un coup développe une idée que je trouve assez bouleversante et qui fait famille avec ma quête, hein, c'est de sa capacité à le dire avec des mots si clairs, souvent je m'arrête. Peu importe ce que je suis en train de faire, je vais chercher le cahier du moment. Mes cahiers sont des grands bordels géants, mais je passe ma vie à les relire parce que j'ai l'intuition que j'ai trouvé une phrase sur ce sujet, enfin voilà. Et je la note. Écrire ce que les gens disent, c'est comme si leurs mots rentraient dans ma bouche. Ils m'apprennent à mieux m'exprimer et à mieux dire le monde tel que moi je le perçois. Et c'est vraiment l'écrire, quoi. L'écrire et l'inscrire dans le papier, c'est comme si... ça faisait corps. Et puis, il y a aussi s'autoriser à la pensée fugace. Pour moi, l'ordinateur, c'est une mise en forme. Pour moi, écrire, c'est dans la tête tout le temps. Enfin, je sais pas, j'ai adoré, par exemple, être accompagnée pendant 5 ans de ce scénario, parce que même je suis toute seule et je fais la queue à une administration. En fait, on s'ennuie jamais parce qu'on se dit, et quand il va venir et il va s'asseoir, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir lui dire parce qu'il ne la regarde pas dans les yeux. Et en fait, on est tout le temps hanté par la quête des mots, du sens, de ce qui doit se dire, de ce qui doit se jouer. Et ces cahiers, ils servent à ça. C'est du brôle intense, mais il y a du sens, en fait. Enfin, moi, je le représente un peu comme... mon compagnon, il est dans le bâtiment, il a toujours des pantalons avec 14 poches, là. Et pour moi, c'est ça, ces cahiers, c'est du bordel. Mais en fait, je récolte et je cueille des choses qui rentrent dans mes poches. Et un jour, tout d'un coup, il y a quelque chose qui... comme une sensation de complétude, et là, tout d'un coup, je sais qu'il y a quelque chose que je peux poursuivre et qui fait sens. Mais donc, je passe ma vie à relire ces cahiers et à essayer de faire un sommaire au début pour pas avoir à tout relire. Je me bagarre avec mes fluos. Enfin, la méthode, c'est que j'ai quand même des cahiers, mais la non-méthode, c'est que ça reste complètement le bordel dans ces cahiers, quand bien même j'essaye toujours de mettre un peu une règle. Et peut-être un jour, mais c'est pas encore ça. Je vis avec des millions de cahiers, je note la date. Donc, je me souviens, à cette époque, qu'est-ce qui me hantait, quel auteur, qu'est-ce que j'ai lu, la démarche de cette écrivaine, etc. Et puis en fait, je sais repiocher, même si c'est un océan de choses qui font pas sens les unes avec les autres.
Vous parliez des horaires tout à l'heure et d'une sorte de discipline. Comment se fait l'équilibre entre le côté labeur et obligation de travailler et l'inspiration?
C'est ça que je trouve très violent et très brutal. Et en même temps, c'est du travail. Donc de toute façon, oui, je me force à m'y mettre tôt parce que moi, j'ai les pensées plus claires maintenant, en tout cas dans ce rythme de vie que j'ai maintenant. Le matin, j'ai les pensées très claires. Et en fait, c'est comme si je faisais du tri avec tout ce que j'ai ramassé dans l'après-midi, dans la soirée, dans la nuit, dans les rêveries. Voilà, donc c'est du labeur. Après, j'ai une chance hallucinante de faire un métier que j'adore. J'ai le droit de raconter des histoires et de faire des films. Donc du coup, accepter ce côté laborieux, oui. Enfin, je veux dire, ça va, je m'en sors assez bien, je trouve, par rapport à plein d'autres gens qui ont des métiers extrêmement pénibles et usants physiquement. Donc du coup, c'est se forcer à rentrer dans sa bulle et essayer d'agencer le puzzle qui nous hante. Et c'est un travail. Et en même temps, à l'intérieur de ce truc laborieux, émergent des choses magnifiques qui font sens, ou tout d'un coup, des mots, une phrase que j'ai entendue de quelqu'un et je l'ai en moi et je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, elle a sa place dans ce que je suis en train d'écrire et c'est des moments de joie immense pour moi toute seule dans un bar, mais ouais, c'est une enquête en fait. En fait, on fait une enquête de ce qui nous hante, ce qu'on a vu et pourquoi chaque jour on se retrouve devant l'ordinateur à vouloir creuser cette idée. Enfin, moi j'ai de la chance d'avoir un métier où j'ai le droit d'aller au bout de mes obsessions, donc. Ok, c'est du labeur, mais c'est pas très grave en fait. J'adore ça. Pour moi, c'est comme une cohabitation avec un film ou avec un projet, quoi. Et en fait, les moments où je suis toute seule, c'est-à-dire quand je fais la queue pour obtenir je ne sais pas quoi et que je suis pas hantée par quelque chose, je suis triste en fait. Je me sens pas envahie par autre chose que juste le réel que je suis en train de vivre. Moi, j'adore cohabiter.
Justement, en parlant de cohabitation, vous écrivez seul. Est-ce que vous pourriez écrire à plusieurs? Et quand vous commencez à écrire un projet, quand est-ce que vous vous sentez prête à le partager, à le faire lire et à qui?
Ce scénario de fiction, je l'ai écrit toute seule par pur. Je sais pas si c'est de l'orgueil. En fait, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce que c'est écrire un scénario en entier pour pouvoir mieux être accompagnée la prochaine fois. Et surtout, je devais trouver une espèce de continuation de mon travail d'avant, quand bien même c'est du documentaire. Je voulais écrire un scénario qui est la suite de mon travail, même si je passe en fiction. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que les scènes ne se regardent pas tout à fait au même endroit et tout ça. Et donc c'était une grande introspection. Mais j'espère que plus jamais je n'écrirai toute seule un scénario, puisque c'est, je veux dire, au même titre qu'un tournage où on est avec plein de gens et que la balle rebondit, ou au montage où on réfléchit vraiment à quatre mains et à deux cerveaux, il y a des moments de recueillement et de solitude. Mais je pense que qu'est-ce que c'est important d'être tout le temps en train de rebondir avec les autres. Donc voilà, j'espère que le prochain scénario que je vais écrire, je trouverai quelqu'un. En fait, je voulais juste pas tomber sur un scénariste qui a des rouages et qui a un vrai savoir-faire et que du coup, impressionné par quelque chose que je ne connais pas, le film dévie vers quelque chose de l'ordre d'une efficacité scénaristique alors que je cherchais la poursuite d'une langue. Mais maintenant, voilà, c'est ça y est, j'ai fait mon petit baptême du feu et maintenant je suis prête à partager ça. Et après, à partir de quand je suis prête à faire lire? Pour moi, c'est plutôt avant de se mettre à écrire, c'est à partir de quand il y a une espèce de pierre angulaire qui vient de tomber dans tout ce que j'ai ramassé dans mes poches, qui m'autorise à me mettre à écrire parce que j'ai l'impression d'avoir embrassé quelque chose qui se tient en entier. Alors, il va falloir fouiller, se bagarrer, tailler, affiner, donner du sens, se perdre, reprendre, recoudre. Et j'ai une productrice géniale qui s'appelle Annabelle Anaiserie, qui me suit déjà depuis plusieurs films, qui est très généreuse dans sa lecture et tout ça, mais moi je lui donne rien à lire tant que j'en ai pas fait 1000 fois le tour pour être sûre que déjà c'est à la hauteur de ce que je pense que je peux faire au maximum. Même si, évidemment, chaque retour pose des nouvelles questions, de choses que j'avais pas envisagées, et de me remettre à l'écriture. Mais ouais, une espèce d'exigence un peu monomaniaque à aller au plus loin de ce qu'on a vraiment envie de dire. Parce qu'il faut pas épuiser les yeux des autres. Que sinon, s'ils lisent trop de versions, après, ils ont plus assez de recul pour voir l'endroit où nous, on ne voit plus.
Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette pierre angulaire, justement? C'est quoi qui fait la naissance d'un projet, l'étincelle qui fait que une idée se transforme en une aventure sur laquelle on va travailler pendant des années?
En documentaire, c'est rencontrer quelqu'un. J'ai l'intuition des mondes qui m'intéressent, où j'ai envie d'aller. Et que tout d'un coup, au hasard de la vie, on va rencontrer une personne qui traverse un des mondes qui nous intéresse d'une manière tellement singulière qu'un film peut être nourri d'une rencontre, d'une soirée. Et je commence une espèce d'immersion, de repérage. Et en fait, je peux écrire un film dès le lendemain, à partir du moment où il y a une rencontre presque amoureuse, quoi. Je sais qu'avec l'autre, on va avoir beaucoup de choses à se dire, qu'on va vivre des aventures ensemble et qu'on s'aime suffisamment pour qu'on se tienne ensemble le temps d'un tournage. Le documentaire, c'est vraiment écrire en filmant. Et en fiction, alors j'ai pas encore assez d'expérience. Temps mort, je sais que le premier jour où j'ai commencé à poser mes trois pattes de mouche sur ces trois aventures d'hommes, j'ai compris dès le début que je voulais faire un film choral et qu'ils allaient sortir le samedi matin et qu'ils allaient rentrer le dimanche soir. Et en fait, dans ce film-là, comme j'avais un cadre, après j'avais l'espace pour écrire dedans, quoi. Mais je crois que chaque film va être une nouvelle expérience. C'est ça ce que j'essayais d'expliquer avec cette histoire de poche. Par exemple, Temps mort, quand je dis qu'un film en appelle un autre, là, je montre à peine mon film, donc je sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée dans ma prochaine obsession. Mais j'ai vécu une scène où tout d'un coup, je me suis dit, mais évidemment que c'est la clé de toutes ces séquences que je récolte depuis que j'ai 15 ans dans mes poches, et que tout d'un coup, il y a une fin possible. Donc du coup, le début devient plus clair, et donc du coup, tout ce que j'ai ramassé comme chair, ben, c'est une bataille après de comment ça peut s'agencer, mais j'ai l'impression de tenir un fil, quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est comment, un début de dessin de fondation de maison et qu'en fait, on peut avoir plein d'idées de fenêtres et de tuiles, mais tant qu'on a... Enfin, moi, je crois que ça me rassure beaucoup d'avoir une sensation de tenir une fondation. Et après, je ne sais pas du tout comment la route va se passer. Est-ce qu'elle sera longue, courte, douloureuse? Un petit tapis volant sur lequel je m'autorise à décoller, quoi.
Vous venez de parler d'une fin possible. Est-ce que c'est une nécessité pour écrire? Est-ce qu'en général, vous connaissez la fin depuis le début? Est-ce que c'est quelque chose qui vous guide ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui s'impose?
En fait, c'est quelque chose qui me guide parce que je crois qu'il y a un endroit où j'ai besoin d'être rassurée pour mettre un peu d'ordre dans mon chaos. Mais à l'image du documentaire, si vous voulez, ça donne une direction du geste. C'est ce vers quoi on tend. Sauf que ben, le réel s'avère toujours différent de ce qu'on attend et tord le cou à toutes nos idées reçues, et c'est magnifique de se laisser surprendre. Et maintenant, même si j'ai écrit qu'un seul scénario, je pense que je peux dire la même chose. Heureusement, notre stylo n'est pas une machine et nous amène aussi à des endroits qu'on n'avait pas prévus, où beaucoup d'humanité nous ont traversés et font dépôt et arrivent à un endroit incroyable. Et voilà, et donc la fin peut en être modifiée, mais ça n'empêche pas comment ça donne juste l'énergie d'une direction, comme si on avait une espèce de colonne vertébrale qui fait qu'on peut marcher sans tomber. Mais il faut rester assez ouvert pour prendre les chemins qui s'offrent à nous à chaque découverte, quoi. Enfin, il y a quelque chose un peu... Il faut rester vraiment alerte à ce qui se passe. Il faut être à la hauteur de l'événement. Mais moi, ça me rassure de savoir où je vais. C'est-à-dire, pour moi, la fiction, c'est tellement océanique, des histoires qui peuvent arriver, les personnages où on les emmène, que ça me rassure d'avoir créé un cadre, même si j'espère le péter de plus en plus, ce cadre-là. Mais je pense qu'on a besoin de savoir plus ou moins dans quelle direction on mène nos pas. Mais ça ne veut pas dire que c'est là où on va.
Est-ce que le titre, c'est aussi une façon de donner une direction?
Ouais, tout à fait. Après, il y a plein d'histoires avec le titre. C'est le nom de la direction. Après, justement, le titre ne va peut-être pas rester le même parce que le voyage aura été différent. Et même en fiction, sur le tournage de Temps mort, il s'est passé des choses qui ont fait que le film a évolué. En tout cas, j'ai enfin posé ce scénario que j'avais écrit à la virgule près, léché chaque mot, pour avoir la place que le réel émerge et que du coup, le film se déplace un petit peu. Et donc, du coup, le titre a changé. Et des fois, le titre est là depuis le début parce que c'est l'idée phare, c'est l'idée majeure, c'est la chose qu'il faut jamais lâcher malgré toutes les embûches. Parce que c'est là où on a envie d'emmener un film. Et des fois un titre, c'est... Enfin voilà, je raconte que j'essaye de mettre un cadre, mais en fait, si j'y arrivais tout le temps, ce serait magnifique, mais c'est pas du tout vrai. Il m'est arrivé plein de fois de faire des films avec des gens et j'ai aucune idée de ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, c'est un endroit où j'adore me perdre et j'ai l'intuition que tout ça fait sens. On a la pensée en recul avant la bataille, mais pendant la bataille, il faut essayer de rester le plus ouvert à l'inattendu, qui peut se coudre poétiquement tout le temps. Enfin, moi, en tout cas, vu que je viens du documentaire, c'est comme ça que j'espère être de plus en plus tout le temps, même en fiction, quoi.
Est-ce que quand vous écrivez, vous vivez avec vos personnages ?
Complètement, en fait. Mais ça aussi, c'est la poursuite de ma quête. C'est-à-dire, en documentaire, je filme très serré les gens. J'ai envie de faire une expérience physique et charnelle. Et c'est vrai que quand on passe en fiction, la chose qui change, c'est qu'on leur ajoute des mots. En documentaire, on a une intuition de ce dont ils sont capables. Et en fait, on les pousse à être de plus en plus à l'essence de ce qu'ils sont, d'enlever les masques, d'arrêter d'essayer de nous montrer ce qu'ils pensent qu'il faudrait qu'ils montrent d'eux. Et tout ça, c'est tout ça le travail documentaire. Et en fait, en fiction, c'est la même expérience physique et charnelle. Il faut vraiment se mettre à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est hyper beau. Donc évidemment, je suis habitée par tous les personnages. Je suis hantée par ceux qui seraient capables de répondre à cette question-là, à ce moment-là, avec tout ce qu'ils traversent. Donc oui, je suis complètement dans leur... tête, dans leur corps, dans leurs yeux, dans leurs mains, dans... Voilà, quand j'ai rencontré des acteurs un peu par hasard pour constituer le casting, j'étais... j'étais comme une espèce de mongole, je disais, mais est-ce que je peux faire des photos de tes mains? Enfin voilà, de me remettre à leur place presque charnellement quand j'écris, quoi.
Est-ce que vous diriez que l'écriture est quelque chose qui vous obsède? Est-ce que ça peut aller jusqu'à vous réveiller la nuit ou vous interrompre au milieu d'une conversation?
Oui, mais c'est pas l'écriture, c'est... Comment? Moi, je suis tout le temps à la recherche d'essayer de mettre du sens... On a tous nos petites quêtes et nos petits handicaps. Et moi, j'ai vraiment l'impression de venir de la sensation, du flou, de travailler film après film à apprendre à devenir plus précise dans ce que je dis et dans ce que je pense et dans ce que je regarde. Donc évidemment, au cours d'une conversation ou dans la nuit, réveillée parce que dormons de travers, parce que quelque chose qui n'est pas résolu. Enfin voilà, évidemment, on a des métiers qui nous hantent. C'est pas vraiment des métiers, c'est des passions, quoi. C'est des vocations. Il y a un truc... Donc évidemment, je me lève et j'écris dans ce fameux cahier une idée, une phrase, quelque chose que je retravaillerai le lendemain quand j'aurai l'esprit clair. Mais on est tout le temps en travail. Il n'y a pas vraiment de fin. Si, là, maintenant, temps mort est fini. Et même j'arrête de refaire le montage virtuel dans ma tête quand je le vois, quoi. J'ai accepté, mais après, il faut que les objets vivent leur vie. Donc je ne sais pas si c'est l'écriture ou si c'est chercher le cœur de ce qui nous travaille et d'être toujours à l'affût. C'est très compliqué d'écrire un scénario. C'est comme si on se mettait à la place de Dieu, quoi. Je connais tous ces gens, comment ils réagissent, quand est-ce qu'ils mentent, quand est-ce qu'ils sont capables de dire, est-ce que c'est pas le bon moment, est-ce qu'ils vont être capables de le dire maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dans les poches, est-ce qu'ils ont mal au ventre quand ils disent ça, parce qu'ils ont... Enfin voilà, il y a vraiment... C'est... voilà, on est hanté en permanence, et évidemment, c'est un peu eux, c'est un peu nous tout le temps, et en même temps, c'est quand même pas nous, donc ils doivent avoir d'autres logiques, d'autres morales. C'est passionnant, j'ai adoré ça, mais j'ai vraiment plus envie d'être seule pour faire ça, par contre.
Qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas ?
Qu'est-ce que je fais quand j'écris pas ? Je vis, j'essaie de vivre ma vie le plus possible. En fait, je sais pas comment font ceux qui enchaînent film après film après film, parce qu'en fait, faut remplir sa besace d'interrogations, de ce qu'on a à vivre. Enfin, je sais pas, à chaque âge, on est différent, et à chaque âge, on a des choses différentes à vivre et se remplir pour comprendre de plus en plus les gens qui nous entourent, le monde dans lequel... Enfin, voilà, moi, j'ai besoin d'être éprouvée pour... Même si je ne parle jamais de moi dans mes films, mais en fait, j'en suis pour partie responsable. Et c'est l'âge que j'ai qui fait que j'ai envie de raconter cette histoire-là à cet endroit-là. Donc oui, il faut s'autoriser à vivre le plus possible. Voilà, en ce moment, je fais famille. Donc je vis beaucoup avec des enfants. Enfin voilà, et en même temps, moi je trouve ça assez beau dans Temps mort. Les enfants ont une place dans le basculement de la famille et ça a un sens. Et c'est pas le sujet sur l'enfance, parce que j'ai pas du tout envie d'écrire des films sur les enfants parce que je suis mère, c'est pas du tout ça, mais c'est juste que ça ouvre notre capacité à embrasser le monde dans lequel on vit. Et j'essaye d'être encore assez curieuse aussi pour partir à l'aventure en bas de chez moi, et pas m'enfermer dans ce truc de juste travailler avec mon ordinateur dans mon petit quartier, enfin voilà, et m'autoriser tout le temps à être une voyageuse, même si je ne peux plus vraiment partir longtemps à l'étranger comme j'aimais le faire avant. Mais il y a encore tellement d'aventures en bas de chez soi que j'essaie de rester ouverte, de m'autoriser à l'inattendu aussi dans la vie, oui, bien sûr.
Est-ce que parfois vous avez peur d'écrire ou de ne plus pouvoir écrire ?
Tout à fait. C'est des moments horribles. C'est des moments... En fait, donc, c'est ce que je raconte, enfin, je suis un peu voilà, monomaniaque, mais je suis tellement persuadée qu'un film en ouvre un autre. Alors, soit c'est une rencontre pendant le processus du tournage, soit c'est une espèce d'épiphanie. Et si elle n'a pas lieu tout de suite, ben, il y a des longs mois de saison sèche. C'est comme traverser des champs de blé brûlés où je n'ai rien en moi, je suis vide. Et c'est ce que je vous racontais, je ne cohabite avec rien, avec personne. Et c'est terrible. C'est terrible parce que j'arrive même plus à lire, parce que pour moi, c'est aussi pareil avec la lecture. C'est qu'un livre, on amène un autre ou nous rend curieux de quelque chose d'autre ou un autre auteur. Enfin voilà. Et je déteste le moment où la chaîne se brise, où je suis livrée à moi-même. Et voilà, et des fois, ça peut créer des doutes intersidéraux, quoi. Ça a mis du temps avant que je puisse montrer Temps mort. Et c'est vrai que comme j'avais jamais fait de fiction, j'arrivais pas à embrayer parce que j'étais bloquée. Parce qu'en fait, un film, tant qu'il n'est pas montré, n'existe pas. Et on a tout le temps besoin de savoir si les émotions qui nous bouleversent, qui fait qu'on se bat pendant des années pour qu'un film existe, est-ce que c'est partageable ou pas? Et tant qu'on l'a pas partagé, moi, je peux pas réouvrir mon cœur, mon ventre, mon bide, mon énergie, parce que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie quand même, à repartir sur les routes alors que ça se trouve, je me suis complètement plantée, quoi. Donc c'est des moments, voilà, c'est des moments souvent où je me refais un bilan de compétences intérieures à me dire qu'est-ce que tu sais faire d'autre. Et là, la question est océanique et douloureuse, quoi. Parce que je viens d'un resto, mais je veux plus retourner dans... Je ne serai jamais cuistot, enfin, je ne le serai plus. Et voilà, et c'est compliqué, qu'est-ce qu'on sait faire d'autre, quoi. Donc évidemment, on peut faire plein de petits métiers, mais on a un métier tellement dingue de pouvoir rencontrer des gens de tous les milieux sociaux qui vivent des choses incroyables. On bouge tout le temps, en fait, même si on reste dans la même ville, hein, c'est pas tant partir dans le monde, mais quel métier est à la hauteur de cette chose-là ? Enfin, j'ai eu des petites idées, mais voilà, mais heureusement, un film m'est tombé dessus et c'est reparti, quoi. Donc les moments où j'écris pas, je suis assez malheureuse, en fait. Je me sens très seule et sans porte de sortie pour mettre de l'ordre dans ma tête et dans mon brouillon.
J'ai une dernière question pour vous, Elle. Pourquoi écrivez-vous ?
C'est un peu ce que je viens de dire. J'écris pour pour me faire de la place en moi-même, pour accueillir la vie comme elle vient et pour être capable de la regarder avec un peu d'imaginaire et de désir et d'essayer de grandir humainement, pas rester toujours au même endroit. Remettre de l'ordre en moi, voilà.
Merci beaucoup, Ève.
Merci.
Merci mille fois, Ève Duchemin, de nous avoir confié ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à les liker, les commenter, les partager et leur mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec Delphine Girard.